Les acteurs, je trouve ça con. Je les méprise. C'est vrai, vous leur dites de rire. Ils rient. Vous leur dites de pleurer, ils pleurent. Vous leur dites de marcher à quatre pattes, ils le font. Moi, je trouve ça grotesque.
Je suis monté à la capitale avec ma valise et mes films Super 8 à l'intérieur. Et j'ai montré mes films Super 8 ici et là, dans des maisons de production, dans des journaux.
It's typical of French cinema, you know? Nombrilistic, you know? Nombril. Cinema about your nombril. Only to please yourself, not for the public. It's only for the intellectuals, you know, for the elite.
Qu'est-ce que la cinéphilie ? C'est un art d'aimer le cinéma, et même un peu plus. Une façon de reconnaître le cinéma comme père et mère, c'est-à-dire de se baptiser cinéphis. Cinéphis, c'est le nom que Serge Danet le premier s'était attribué. Serge Danet, 1944-1992, a rencontré plusieurs cinémas, du crépuscule américain à l'éclosion du cinéma du tiers-monde, en passant par la Nouvelle Vague, plusieurs cinémas donc, et aussi plusieurs supports. Des Cahiers du cinéma à la création de Trafic, sa revue, en s'arrêtant quelques années à Libé. À chaque fois pourtant une cohérence, la volonté de faire passer. Le passeur murmure à l'oreille de son lecteur des secrets bien gardés. Clandestin le cinéma ? Les films se regardent dans une salle obscure, et si les spectateurs sont liés, c'est par leur solitude face à l'écran blanc. Mais cette solitude, cette obscurité, n'a rien d'une fuite. Les cinéphiles ne sont pas des adolescents qui veulent s'échapper du monde, l'oublier, au contraire. La cinéphilie est le royaume de l'enfance. La certitude qu'on est exclu du monde, la croyance qu'on appartient à une autre version du monde, là où on vit les films plus qu'on les regarde. Car les films, eux aussi, nous regardent. La cinéphilie, selon Serge Danet, c'est donc l'art d'aimer les films comme des personnes. Hors champ, présenté par Charlotte.
Hors champ, vous savez, c'est l'émission de Radio Campus Paris du dimanche soir qui vous parle du cinéma. Aujourd'hui, autour de la table, Martin, qu'on vient d'entendre, Joséphine, Grégoire et puis Mathieu, derrière la vitre, le prisonnier de la console. On vous parle aujourd'hui de Serge Danet, on pourrait vous en parler toute l'année, mais en fait, il y a deux petits événements à signaler, un festival Serge Danet au Reflet. On reviendra peut-être sur le principe de passer au cinéma des films qu'un critique a particulièrement aimé avec des gens qui ont connu ce critique, et il y a quelque chose vraiment qui va au-delà de l'idée de rétrospective. Il y a cette cinéphilie dont tu parlais, Martin.
C'est du 16 au 22 mars,
voilà,
au Reflet Médicis.
Du 16 au 22 mars au cinéma Reflet Médicis dans le 5e. Et puis, autre événement autour de Serge Danet, c'est la parution d'un DVD, d'un entretien en fait aux éditions Montparnasse qui s'appelle, Joséphine,
Serge Danet, itinéraire d'un cinéphis.
Voilà, c'était un entretien de 1992, donc quelques semaines,
quelques mois avant sa mort,
avec Pierre-André Boutan. Régis Debray, réalisé par Pierre-André Boutan. Voilà, un DVD qu'on a tous vu ici et qu'on vous recommande. Mais sans plus attendre, on va voyager dans la pensée et dans l'écriture de Serge Danet.
Moi, je crois que la première image qui a compté pour moi, et l'image presque définitive, c'est pas une image de cinéma. C'est l'atlas de géographie. J'ai repensé récemment et je me suis rendu compte que l'image qui a regardé mon enfance, littéralement, au sens chez soi on met une grande carte de géographie qui est la carte du monde, ou après les cartes de géographie de l'école, encore très coloniale, toute bariolée, avec cette idée que chaque pays c'est une couleur différente et que plus il y a de noms sur la carte, mieux c'est. Moi, j'ai eu très vite une propension extraordinaire à mémoriser les noms propres. Je crois que je savais tout de suite quelles étaient les capitales du monde entier. J'ai toujours su que le Honduras était Tegucigalpa. Toujours.
Le voyage et la carte de géographie à l'origine de la cinéphilie n'ont pas l'image. Ça, c'est important chez Serge Danet, c'est-à-dire que le cinéma, ce n'est pas une succession d'images. C'est un art de la représentation, comme la carte de géographie est une symbolisation du territoire. Hein. Dans la nouvelle de Borges, dont j'ai oublié le nom, on imagine une carte de géographie qui serait à échelle 1-1. Donc en fait, la France serait dessinée aussi grande que la France. Et donc il y a cette idée chez Danet que le cinéma c'est une C'est une question pas forcément seulement d'images, de photographies ou de belles images. C'est pas un bel album. Et deuxièmement, que le cinéma, ça marche au sens de la randonnée et au sens du voyage. Et puis après tout, être critique au sens très terre-à-terre, c'est aussi avoir l'occasion de parcourir le monde, de découvrir des cinématographies qu'on a la chance, nous, à Paris, de connaître, mais que dans certains autres pays qui sont vraiment cantonnés à leurs pays respectifs. Danet marcheur.
Danet regardeur, avant tout, peut-être, puisque pour lui, en tant que critique, était un lecteur du cinéma qui était lui-même, selon lui, une lecture du monde. Donc c'est pas un cinéma, avant d'être une création, c'est une lecture, parce que le cinéma, pour lui, d'abord des sens réalistes, c'est-à-dire qu'on fixe quelque chose qui se passe devant nos yeux. Et c'est pour ça qu'il a était particulièrement intéressé par le cinéma, où qu'il soit, et en particulier de l'étranger, parce qu'il donnait pour lui des nouvelles du monde et d'un monde qu'il ne connaissait pas. Et lui, l'enfant fasciné par les mondes dont il voyait les noms, il avait enfin une représentation. Et il a pu, notamment grâce au festival, aller dans des endroits en Afrique, notamment, voir des choses qu'il n'aurait jamais pu voir ailleurs. Donc c'est vrai que ça lui a donné une passion. Le cinéma et la géographie sont des passions liées chez lui.
Nom de pays, le nom. C'est quand même très, très Marcel Proust, tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose dans son écriture qui garde trace de ce mouvement perpétuel ?
Je crois qu'il y a une façon de décrire en images et en sons ce qu'on voit et ce qu'on entend comme des récits de voyage. Décrire les films comme des récits de voyage. D'ailleurs, Joséphine va peut-être pouvoir nous lire un extrait à propos de Satyajit Ray qu'il est allé visiter.
Aller chez Satyajit Ray n'est pas très difficile. La Bishop Lefroy Road n'est pas très loin de Chorengi, centre aberrant de cette ville décentrée. Des arcades surpeuplées y font face à un terrain vague où, gag, Russes et Hongrois font semblant depuis des années de construire un métro dont tout Calcutta aime à dire qu'il s'écroulera à la première rame. Ils en ont encore pour 10 ans, dirait que cette idée fait bien rire. La maison du cinéaste est dans un district du centre de Calcutta, au cœur d'un quartier plutôt calme et cossu. Les maisons, leurs volets et leurs balcons sont convenablement rongés d'humidité. L'ocre y vire au noir. Ray occupe l'étage supérieur d'une haute maison, à peine plus vieille que lui. Je vois le vaste bureau où il me reçoit. Je devine le reste. Des domestiques lents, des plantes, des bobines en vrac, un diorama de cartes de vœux sur une petite table. Nous sommes en janvier, c'est l'hiver, il fait très bon. Puis des livres, bien sûr. Une vieille radio, 2 fenêtres donnant sur 2 rues, des journaux pliés et dans un fauteuil, très détendu, gai même, Satyajit Ray. De la part du visiteur occidental, Ray s'attend à de l'admiration. Il sent s'être digne. Le respect qu'on lui porte lui plaît, mais ne le surprend plus. Voilà pour l'image. Pour le son, le la est donné par les corbeaux qui coassent avec autant de haine rentrée que sur la bande-son d'India Song. Embouteillage, cris, klaxon, vendeurs ambulants et oiseaux divers font le reste. C'est simple. La ville entre par la fenêtre.
Je sais pas pour vous, mais moi j'ai eu assez l'impression d'un travelling au moment où il décrivait les objets dans la maison de Ray, chose comme ça. J'ai vraiment l'impression d'une écriture qui s'est faite cinéma à ce moment-là pour justement recréer l'univers d'un cinéaste indien, en l'occurrence Satyajit Ray, et sa grande attention aux petites choses. Et c'est comme si c'était plongé dans l'univers de Ray et qu'il avait voulu rendre ça sur les lieux mêmes.
Oui, sachant que ce mimétisme de l'écriture, enfin qui suit la mise en scène cinématographique, n'est pas non plus systématique chez lui. Oui. Ça devient pas un système.
Et c'est d'ailleurs plus vrai quand il ne parle pas des films, mais quand il parle du réel. Quand il parle des films, le film est film, mais quand il parle du réel, là, il adapte son propre cinéma, j'ai l'impression. Et une autre façon également de voir le voyage chez lui, c'est notamment quand il parle des festivals. Les comptes rendus qu'il en fait sont moins des comptes rendus des films vus que des choses qui se passent et de la façon dont les gens regardent les films. Donc il fait un peu le contre-champ des films en montrant par exemple en Afrique les enfants qui réagissent à un film qui en l'occurrence est un documentaire kényan assez mauvais. Et il regarde mystérieusement le spectacle des enfants qui est finalement beaucoup plus beau que le film lui-même.
Oui, sachant que dans certains festivals, il n'y a vraiment que ça à faire. Étant donné la pauvre qualité des films, c'est aussi une donnée de la critique d'alors et d'aujourd'hui. Les voyages, c'est aussi le voyage à Hollywood qu'il a accompli quand il était tout jeune et où il a eu quand même le culot d'aller avec Luis Corecki, je pense. Oui, c'est ça, qui était son camarade de lycée, pour interviewer carrément les grands, enfin les monstres sacrés de Hollywood. Alors lui, son favori, c'était Howard Hawks, mais ils ont interviewé aussi Sam Fuller. Qui est-ce qu'ils ont interviewé?
Buster Keaton.
Voilà, carrément.
Il raconte des choses très belles dans le DVD d'ailleurs sur Buster Keaton, complètement vieux, fou et que personne n'écoutait plus, mais qui, en un instant, pouvait se souvenir de comment était fait le gag et presque faire un croquis d'un gag qui avait été fait 50 ans plus tôt.
Oui, c'était ça. Et ça nous donne aussi aujourd'hui, enfin nous qui arrivons après le désastre, qui arrivons après tout ça, peut-être l'espoir que le culot peut payer. C'est-à-dire que qui d'autre s'était lui-même payé un voyage à Hollywood pour aller demander aux interlocuteurs des studios, qui étaient quand même des gens assez, pas forcément très accommodants et très sympathiques d'abord, de rencontrer les grands maîtres hollywoodiens.
Oui, mais Charlotte, c'était quand même une autre époque où les cahiers du cinéma, les jeunes turcs des cahiers du cinéma avaient quand même bonne presse auprès des pontes hollywoodiens. Et donc, ça attirait. À ce moment-là, on dit « Ah, vous êtes un jeune critique français, mais on va vous... » Bien sûr, oui, on va voir. Et même Sternberg, qui était très réticent à l'idée d'être interviewé, a accepté parce que c'était des jeunes critiques français.
Oui, il faut dire aussi qu'il le reconnaît, certaines années, il reconnaît sa naïveté à l'époque, la naïveté de ses questions. Et du coup, quand on relit aujourd'hui certains entretiens ou certains propos rapportés dans les cahiers jaunes, parce qu'il faut savoir que dans les cahiers du cinéma jaune, parfois les entretiens étaient faits sur magnétophone et parfois non. Donc parfois, on se dépêchait vite de courir au café pour retranscrire ce qu'on venait d'entendre, en plus en anglais, donc on n'ose même pas imaginer.
Puis le magnétophone, visiblement, marchait pas souvent à ce qu'il raconte.
Hein. Voilà, je crois que c'est Sternberg ou je ne sais qui d'autre qui s'est mis à essayer de réparer le magnétophone des deux journalistes français qui étaient avec lui, qui étaient vraiment pas très dégourdis apparemment. Par exemple, Sternberg a, on peut dire, enfin un peu manipulé ces deux jeunes journalistes français, puisque en fait sa tactique était de dire voilà, je vous démontre par A plus B pourquoi moi je suis le plus grand maître du cinéma hollywoodien et pourquoi pas machin et pas machin. Et ça, on le retrouve d'ailleurs dans les mémoires de Joseph von Sternberg, c'est assez, il est coutumier du fait. Donc c'est intéressant aussi de voir, et dans le DVD qui est un entretien, et dans les écrits de Danet, une progression, disons. On voit la naissance d'un critique qui commence par interroger les grands, mais en leur posant peut-être des questions un peu à côté de la plaque quand même.
Et très théorique, selon lui.
Voilà. On arrive, et on a tous eu cette impression, c'est-à-dire qu'on arrive avec notre savoir, avec ce qu'on pense des films, et puis on va tout expliquer au réalisateur qui n'aura qu'à dire « Oui, bravo, vous m'avez compris, vous m'avez compris !» Et puis voilà, tout sera dans la boîte, et puis c'est pas du tout ce qui se passe.
Oui, avec ce voyage, on sent qu'il est vraiment dans la demande d'une sorte d'adoubement, parce que si je me souviens bien, il n'est pas encore au cahier quand il part à Hollywood, c'est une façon de s'infiltrer. Et c'est vrai qu'il fait preuve d'un culot monstrueux, et on a vraiment l'impression que voilà, c'est une façon de trouver une sorte d'adoubement auprès de cette revue mythique, et d'y trouver sa place. C'est assez intéressant, et c'est très symptomatique, enfin, de toute une époque où effectivement il fallait revenir avec les meilleures infos possibles, et on partait comme ça à l'aventure. C'est assez saisissant, effectivement.
Nous voyageons de ville en ville, nous représentons des motos, des bicyclettes et des bateaux, la route est notre domicile.
Un jour ici,
un jour ailleurs, nous vivons libres et sans attache, lutins farfelus et potaches, courant de bonheur en bonheur.
Préférons au pire le meilleur, la bonne humeur à la tristesse,
les jolies filles ont les dronesses,
et le plaisir à la douleur.
Nous voyageons de fille en fille, nous butinons de cœur en cœur, à vie rodelle, dans chaque port, à cœur perdu, dans chaque ville.
Notre vie c'est
le vent du large,
l'odeur du pain,
le goût du vin, le soleil pâle des matins, le soleil noir des soirs d'orage,
le sourire d'une enfant sale,
la sieste dans le foin coupé,
l'amour fou au milieu des blés.
et le vent frais sur le visage.
Nous voyageons de ville en ville, nos lendemains sont incertains. Une blonde vous tend la main, c'est à nouveau la vie facile.
Un jour ici,
un jour ailleurs, notre vie comme une romance s'élance sur un air de chance, courant de bonheur en bonheur, préférant la joie au malheur,
l'intelligence à la bêtise,
à l'hypocrisie, la franchise.
Aux gendarmes, les gens de cœur.
Nous voyageons de fête en fête, on nous désigne de la main,
on nous appelle les forains, en vérité on est poètes.
Un jour sérieux,
un jour rieur,
notre vie joue en alternance,
la tragédie de l'existence
et la comédie du bonheur.
Amis à la vie, à la mort,
prince sans peur et sans reproche,
chevalier sans un sou en poche.
Par contre notre cœur est d'or.
Nous voyageons de ville en ville, du Val de Loire au bord du Rhin.
On nous appelle les forains, la route est notre domicile.
De ville en ville, du Val de Loire au bord du Rhin,
on nous appelle les forains,
la route est notre domicile.
Parce que je vivais à l'époque, moi j'ai un trou de quelques années comme ça dans ma vie, je sais que ma journée commençait à l'ulme à 6h, on voyait les films à la suite, et puis on n'avait pas un sou, donc on allait bouffer des sandwichs, et on ratait le dernier métro, et on traversait Paris en parlant des films. Avec 3-4 copains, bon... alter ego, mais enfin on vivait comme des zombies absolus. Et puis quand même, l'idée de rentrer au cahier est venue, mais elle est venue lentement, et elle s'est faite très lentement. Je pense maintenant que j'étais tellement sûr que c'était ma revue que je ne me suis pas précipité.
Serge Danet, vous êtes toujours dans Hors-Champ sur Radio Campus Paris, et on évoque un cinéphile qui se fait zombie avant d'entrer au cahier, qui fait un sit-in sur les... qui squatte les marches des cahiers du cinéma pour entrer dans cette revue, pouvoir y écrire et puis pouvoir aussi en repartir et revenir pour la diriger. Donc un rapport comme ça, finalement assez libre à ce qui était déjà une institution. Grégoire. Oui, c'est sûr que c'était une institution, et Danet, donc, qui est né en 44, qui a commencé à devenir vraiment cinéphile aux alentours de 59, donc quand il avait une quinzaine d'années, qui correspond à l'époque où justement les critiques des cahiers commençaient à faire des films, c'était le début de la nouvelle vague en France. Pour lui, il voyait à la fois donc des textes qu'il lisait sans doute avec avidité et un peu un brin d'admiration, et voir que les gens dont il voyait les signatures faisaient des films qui en plus il aimait, devait faire que vraiment pour lui, quand il dit que c'était sa revue, c'était vraiment plus que, enfin il y avait un rapport chronologique fort en plus de l'idée d'un certain esthétisme du cinéma. Alors on dit esthétisme, mais avant tout, enfin assez rapidement quand même, le cinéma c'est une affaire de morale. On sait que pour Serge Danet, enfin Serge Danet a lu le fameux article de Jacques Rivette, Le Travelling de Capot.
Sans jamais avoir vu le film.
Sans jamais avoir vu le film.
Comme à peu près tout le monde, je pense.
Oui, et pourtant, alors on rappelle peut-être un peu
cet article. C'est Emmanuelle Riva qui est morte et qui est sautée, qui a été défenestrée ou qui est sautée pour se suicider.
Ouais, je crois qu'il se suicide. Sur les clôtures électriques, voilà. Camp de concentration.
Et une caméra qui s'approche d'elle pour bien la cadrer, pour que sa main soit bien au haut, à droite du cadre. Et donc cet effet était fustigé par Rivette en le disant vraiment, le type qui a fait ça ne mérite vraiment rien.
Et digne du plus profond mépris.
Voilà, digne du plus profond mépris, la phrase exacte, merci.
Oui, parce que ben voilà, Danet, né en 44, tu le rappelais, Grégoire, c'est, il y a aussi ça derrière, il y a aussi comment on fait des images après les camps, et c'est pas seulement la question, enfin, philosophique qui a émergé après, c'est aussi tout simplement et assez concrètement que l'un des premiers films que Danet a vu au Ciné-Club, c'était Nuit et brouillard d'Alain Resnais, qui est un montage d'archives de photos de camps de concentration avec un texte de Jean Cayrol. Et ça, ça lui est quand même resté. C'est-à-dire qu'on prend ça dans la tronche, mais même notre génération, on a pu voir ce film à l'école. enfin moi je sais pas.
Oui, oui.
Et assez jeune donc, et c'est quelque chose qui reste, qui questionne le rapport du cinéma au réel, par exemple, de notre place dans l'histoire, et qui est resté, d'où le lien qui n'a pas quitté Serge Danet entre morale et forme, c'est-à-dire qu'il y a une morale de la forme, il n'y a pas d'un côté les images magnifiques et d'un autre côté une espèce de moralisme du discours, où on aurait des films à thèse qui seraient soit l'un soit l'autre. Et c'est assez intéressant que cette morale de la forme, aujourd'hui, on a l'impression que énormément de cinéma, énormément de cinéastes ne l'ont toujours pas intégré. On voit de très beaux albums d'images, on a des films qui sont on peut penser par exemple au dernier film de Patrice Lecomte, avec de très belles images de gens qui vont en voyage pour adopter un enfant, et on a vraiment l'impression qu'on est en plein
Club Med,
voilà. Par exemple,
Danet disait que la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale avaient été deux moments où le cinéma avait servi, avait eu un vrai but, parce qu'il devait être témoin, les images étaient témoins, et donc avaient une importance particulière, et que peut-être à certains moments, 10 ans après les camps justement, il y a quelque chose qui s'est un peu dégradé dans le cinéma, et on a oublié ce devoir.
Je crois que ça s'est dégradé pendant la guerre, c'est du fait que le cinéma n'a pas fait son devoir, entre guillemets, de témoigner de l'horreur qui se passait.
De façon oui et non, très ponctuelle aussi.
C'est peut-être fait après, il parle aussi dans son dernier texte qui est paru justement, qui parle du travelling de Capot, qui est paru dans le numéro 3 de Trafic, sa revue. Il parle de ça, il parle d'un documentaire de George Stevens, ou je ne sais plus. Enfin bref, un documentaire sur. Il était soldat, il était caméraman dans l'armée, il découvre les camps, et c'est un film donc qui existait, mais qui n'a jamais été utilisé ensuite, et qui a été vu dans les années 70 ou 80, parce que Hollywood ne savait pas quoi en faire de ce genre de film.
Joséphine.
Oui, non, mais moi je crois que effectivement tu le disais, ce qui est déterminant, c'est que Danet naît en 44. Donc c'est-à-dire que pour cette génération, on se pose la question, qu'est-ce que mes parents ont fait pendant la guerre, ou plutôt que n'ont-ils pas fait, qui est facilement transposable, qu'est-ce qu'a fait le cinéma pendant la guerre ou qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Et c'est vrai que le cinéma français pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est quand même pas très reluisant. On a des trains de célébrités qui partent à Berlin pour des voyages de promo. Bon, on connaît les ennuis qu'Arletty a eu après la guerre.
Daniel Darieux.
Voilà, ceux qui a eu une guiterie aussi. Donc, ce qui prouve bien que Danet s'élève aussi, mais comme toute sa génération d'ailleurs, contre cette espèce de cinéma nauséabond qui n'a pas su dire non, ou alors très très peu, contrairement par exemple au milieu littéraire, où on a les éditions de Minuit de Jérôme Lindon, qui ont publié pendant toute la guerre les poèmes d'Aragon, qui ont vraiment fait acte de résistance. Au cinéma, c'est quand même assez dur à trouver, ou alors c'est des cas ambivalents, comme par exemple Les Visiteurs du Soir de Marcel Carnet, avec cette fin emblématique, vous savez, où les amants, à savoir Jean Marais et Arletty, sont statufiés, et où on a quand même le cœur qui continue à battre. Donc certains y ont vu un acte de résistance, c'est-à-dire que même occupé, même mutilé, la France, le cœur de la France bat toujours, mais enfin, c'est comme Antigone Danouille qui se joue au même moment à Paris, ça reste quand même un peu ambivalent.
Oui, alors tu disais un cinéma nauséabond, il n'est pas forcément nauséabond parce qu'il est idéologiquement douteux, en réalité il est nauséabond parce qu'il continue d'exister en tant qu'industrie, enfin tant bien que mal peut-être, mais en tant qu'industrie
indifférent
à ce qui se passe, et proposant une espèce d'opium du peuple à une France occupée, c'est-à-dire que le cinéma du samedi soir n'a jamais été aussi utile que les soirs où on était en pleine guerre. Enfin,
parce qu'il faisait chaud aussi dans les cinémas, donc c'est vrai qu'on y allait beaucoup, l'industrie était florissante, et c'est ce que dit Danet, il dit dans le cinéma de cette période-là, j'ai entendu une seule phrase de résistance, c'est dans Les Dames du Bois de Boulogne de Robert Bresson, quand l'héroïne dit « je lutte », et il revient sur ces mots « je lutte », c'est la seule phrase que j'ai entendue.
C'est aussi parce que ce « je lutte » était dit d'une voix blanche particulière, et donc inventer une nouvelle forme de cinéma, c'était presque donc l'esthétique de Bresson qui allait donner tout son cinéma après, parce que le film était encore assez classique, l'esthétique de Bresson qui naissait là et qui donnait une parole de résistance et de dire « voilà maintenant comment il faut faire du cinéma » et plus de cette façon-là retourner de cette façon qui était celle de la qualité française.
Oui, la fameuse qualité française, c'est un peu une phrase qui revient pas seulement sous la plume de Danet, mais avant lui, sous celle de François Truffaut, qui est quelqu'un en fait que Danet estimait en tant que cinéaste, mais qu'il estimait surtout beaucoup en tant que critique, qui a eu un style assez féroce et qui a fustigé toute la génération des cinéastes des années 30, qui eux étaient devenus cinéastes non pas comme les gens de la Nouvelle Vague dans la rupture ou dans d'abord la critique de cinéma, etc., mais en étant assistant des grands maîtres, des vieux, pendant une vingtaine d'années. Puis ensuite, ils devenaient cinéastes. Donc il y avait quelque chose de très encrouté déjà, même à 40 ans, quand ils faisaient leur premier film. Oulala, ça sentait déjà la rouille.
Ça sentait la maîtrise et puis l'inspiration littéraire. C'était beaucoup d'adaptations de Balzac, de Zola, quelque chose d'un peu sociologique et qui regardait, enfin, tout fait, qui regardait pas vraiment le présent et le monde, ce que cherchait Danet avant tout.
C'était autant Lara, c'était
Duvivier ou des gens comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine ressemblance entre les itinéraires de François Truffaut et de Serge Danet. C'est peut-être pour ça qu'il y a... C'est-à-dire que tous les deux sont issus d'un milieu assez populaire, parisien. Il y a une relation à la mer assez forte. Chez Danet, on le sent très proche. Chez Truffaut, effectivement, il y a un rejet de la part de sa mère.
Il y a aussi l'absence de père.
Et l'absence du père. Et tous les deux vont avoir effectivement... Enfin, je pense que Truffaut doit devenir cinéphile peut-être un peu plus tôt que Danet, mais c'est un rapport extrêmement fusionnel au cinéma et une arrivée au cahier assez flamboyante, avec des papiers extrêmement forts, extrêmement... C'est vrai que Truffaut, son papier a une certaine tendance du cinéma français qui s'attaquait aux cinéastes, aux dialoguistes, notamment Orange et Bost, a été dévastateur, enfin à un niveau, mais voilà, ce sont des gens qui ont une plume incisive et qui sont des autodidactes aussi, hein, qui viennent pas de milieux bourgeois ou privilégiés.
Grégoire.
Peut-être qu'on pourrait lire un extrait, pardon, je coupe Grégoire, un extrait de ce que dit Danet sur Coup de torchon et qui reprend un petit peu des choses que disait Truffaut.
Quelque chose ne va pas avec la qualité française. Évidemment, je joue les naïfs et les mous. Je sais que tout ceci a un nom. Qualité française, et que d'ailleurs Tavernier ne fait pas mystère de son goût pour ce cinéma à l'ancienne, où c'est toujours le dialogue qui l'emporte sur le récit et le casting sur la mise en scène. Bien. Mais plus la qualité française revient, et elle revient au galop, hélas, mieux on se rend compte à quel point elle n'était pas seulement une affaire d'esthétique, mais une attitude d'esprit, une idéologie, le grand mot est lâché, tant pis. L'académisme formel, la soumission du cinéma à la littérature et de la littérature aux mots d'auteur, la revendication du professionnalisme sont toujours allés de pair avec la vision pessimiste d'un monde glauque et désenchanté. L'académisme est paresseux. Ce monde pourri qu'il est illusoire de vouloir changer, pourquoi diable en faire la matière d'un récit et d'une mise en scène, d'un jeu avec le spectateur? À quoi bon?
Alors cette haine de la France moisie et du cinéma moisi, avec laquelle on peut tout à fait d'ailleurs retrouver des échos cinéphiles aujourd'hui. Moi je pense à Boudu par exemple aujourd'hui au remake du film Boudu Sauver des eaux de Jean Renoir avec Depardieu. C'est vrai que Danet évoque pour sa génération quand il avait plutôt 10 ans le fait que tous les acteurs connus, les grands acteurs français, c'était les Rému, c'était Fernandel, c'était même Michel Simon.
C'était des vieux déjà.
Voilà, Michel Simon qui est un très très grand acteur, ça il le nierait jamais, mais c'était pire que des vieux, c'était...
Des statues presque.
C'est sûr qu'à côté des héros américains, de western et autres, comme Cary Grant notamment, qui l'aimait beaucoup... C'est sûr que les personas français dans lesquels on pouvait se projeter ne représentaient pas du tout le français idéal.
Voilà, et aujourd'hui, moi je trouve qu'on s'est retrouvés un petit peu dans le même contexte, politique, socio-économique dans ce pays, et qu'on a, nous qui vous parlons sur Radio Campus Paris toutes les semaines des films qui sortent le lendemain, on vous en parle le mardi soir, combien de fois on a des films qui sont... qui sont un peu rances quand même, il faut bien le dire.
Ah oui, là, le film de Juniau, effectivement, mais on en a eu d'autres aussi. Le film de Jeunet, d'une certaine manière, ou un cinéma un peu vieille France qui recrée un univers et qui va se pencher non plus là tellement sur le 19e, mais sur le début du 20e. Donc il y a un déport comme ça de l'académisme qui va chercher une période révolue, 100 ans en arrière, et de voir ce que ça fait de filmer ça sans du tout prendre en compte le présent.
Une période révolue ou un âge d'or qui n'a jamais existé, d'ailleurs, c'est peut-être plutôt ça, quand on voit aussi le succès, bon, alors, on va pas encore taper dessus, mais des aquariste, effectivement, où on présente un pensionnat comme et puis l'émancipation par le chant. Enfin, des périodes qui n'ont jamais vraiment existé. Quand on prend effectivement le film de Genet, qu'il s'agisse de cette version un peu mythifiée quand même de la fin de la Première Guerre mondiale, où avec ses couleurs sépia extrêmement séduisantes, ou qu'il s'agisse d'Amélie Poulain, qui lui est un film contemporain, mais dans un Paris qui n'existe pas, on est toujours en quête d'une sorte d'Éden perdu, mais enfin perdu, oui, parce qu'il n'a jamais existé.
Oui, qui est surtout un temps hors de l'histoire et un temps dépolitisé. Et là, on va venir peut-être à une période de l'œuvre de Danet qui est un peu radicale, un peu radicalisée. Il y a un durcissement de la revue Les Cahiers du Cinéma dans les années, disons, 70-72 ou 68-72.
Bah, l'après 68, oui.
Alors, qu'est-ce qui se passe, Grégoire ?
Bah, il se passe que, comme il le dit d'ailleurs dans le DVD, ils étaient complètement dépolitisés jusqu'à 68 à peu près. Et 68, avec d'abord l'affaire Langlois en février, puis les événements de mai-juin, a vu toute la bande des Cahiers et en général beaucoup de cinéphiles rentrer dans la politique. Et comme souvent les cinéphiles sont un peu extrêmes, ils y sont rentrés tellement fort qu'ils y sont restés bien après. C'est-à-dire que...
Oui, parce qu'il faut rappeler quand même, parce que tu dis l'affaire Langlois, que c'est un scoop sur Radio Campus Paris, c'est une question de cinéma qui a été vraiment le déclencheur de 68, des événements de mai 68, puisqu'on retrouvait même Daniel Cohn-Bendit
qui faisait ses débuts d'agitateur
devant la Cinémathèque occupée. Qui veut nous rappeler juste rapidement cette affaire Langlois
Bon, en fait, c'est donc la Cinémathèque de Langlois a été donc que Langlois avait créé avec Franju en 1936 et dont il avait la garde entre guillemets en 67-68. Malraux, qui était ministre de la Culture, s'est rendu compte que vraiment la gestion mais purement matérielle de la Cinémathèque était complètement délirante et a remplacé Langlois comme ça sur un coup de tête, et ça a tout de suite créé une sorte de une émulsion dans le monde du cinéma, enfin des cinéphiles, parce que Langlois c'était le pape en quelque sorte. Et donc tout de suite, même si Danet dit sur le fond c'était plaidable de vouloir remplacer Langlois, parce qu'effectivement la Cinémathèque perdait des monceaux d'argent, on ne touchait pas Langlois. Et donc la nouvelle vague française a tout de suite réagi, et des cinéastes étrangers comme Nicolas Rey ou des gens comme ça sont venus à Paris pour manifester pour Langlois.
Donc les cinéphiles, et notamment les gens des Cahiers qui n'étaient pas politisés, qui étaient même pressentis plus ou moins de droite, etc. Le fondateur des Cahiers, André Bazin, qui était un catholique fervent, même si c'était un catholique plutôt de gauche.
Pierre Romère, après, qui a été tenu la revue un petit moment aussi.
Voilà, et plutôt lui, sérieusement à droite. Tout ça, le réel et le réel de la politique, ils le prennent quand même assez fort, une bonne grosse claque en 68. Et du coup, on a une drôle de revue après qui se développe, où on n'a quasiment aucun compte-rendu de film, on n'a quasiment aucune critique de film.
Aucune photo. C'est complètement abstrait et assez illisible.
Oui, aujourd'hui, ça fait un drôle d'effet de relire.
Oui, c'est assez effectivement difficile à lire, notamment parce qu'en plus, on n'est pas du tout dans l'esprit du temps, et la rhétorique qui est utilisée, donc, puisque les Cahiers ont viré marxiste-léniniste, puis maoïste pro-chinois, enfin, pour les histoires de Chapelle, il y avait des... Enfin, quand on lit les textes maintenant, on voit qu'il y avait des mots qui, sans doute, avaient des usages hyper précis et qui nous passent complètement par-dessus la tête maintenant. Ceci dit, Danet se justifie un petit peu, enfin, justifie oui et non. C'est-à-dire qu'il dit qu'ils sont vraiment passés très loin de la catastrophe, très loin d'aller trop loin dans cette voie-là, ultra-politique, mais il aime bien rappeler que quand même ils n'ont pas laissé tomber complètement leur goût en matière de cinéma, et que les rares films dans lesquels ils parlaient, même s'ils en parlaient peu, étaient quand même toujours dans la lignée de ce qu'ils aimaient avant et ce qu'ils ont continué à aimer après.
Oui, c'est-à-dire que, enfin, c'est ce qu'il explique, ils n'allaient pas défendre un film russe, il n'était pas bon sous prétexte que c'était un film russe. Mais c'est vrai que cette période des Cahiers, c'est assez abominable quand même, parce que, comme tu le disais, Grégoire, c'est tout un vocabulaire qui nous est à nous étrangers. En même temps, c'est fascinant de voir comme les Cahiers adoptent les causes de leur temps, et à quel point ils adhèrent et ils font corps. C'est assez fascinant, je trouve, ce virement aussi radical pour une revue qui a dû en décontenance français quand même, plus d'un. Enfin, moi, ça m'a toujours surpris. The.
Et quoi?
Oui, et juste, je pense qu'on peut là faire un peu le parallèle avec justement l'influence de Godard sur les cahiers et en particulier sur Danet. C'est-à-dire que Godard a un peu été le... Il était plus vraiment au cahier à ce moment-là, mais lui est passé vraiment plutôt à l'extrême gauche, a fait des films d'extrême gauche maoïste.
Comme La Chinoise.
Comme La Chinoise et ceux d'après. Et je crois que Danet, qui a toujours considéré Godard comme quelqu'un de... Un génie et quelqu'un qu'il fallait suivre, même si on n'était pas toujours, on se rendait pas toujours compte que qu'il avait raison et que pourquoi il avait raison a été un peu un modèle dans ce virement.
Et il avait écrit aussi une lettre à Malraux, donc tout se retrouve. Et puis Godard a fait de la vidéo donc de très très à gauche dans les années 70 et Danet réfléchira 10 ans après ça à ce que c'était que la vidéo vraiment, ce que c'est aujourd'hui et ce que ça a été à l'époque de Godard.
Mais alors dans tout ce qu'on dit là autour de cette table sur Serge Danet, on a un petit peu l'impression qu'il est né 10-15 ans trop tard et qu'il est à courir derrière d'une part François Truffaut, les fondateurs des cahiers, les cahiers jaunes, donc André Bazin, etc. Et puis ensuite Godard. Donc est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose de tellement en retrait qu'à un moment, bon, il n'a pas fait de film, Serge Danet n'a pas fait de film, il s'en explique aussi entre guillemets dans l'entretien qui est consigné sur le DVD. Est-ce qu'il n'y a pas une position de retrait qui est quand même assez difficile à tenir?
Mais il n'était pas, lui, très engagé, il n'était pas très politisé avant mai 68 pour lui, mais 68 c'était un énorme choc. Je pense qu'il était justement dans la position du voyageur depuis l'enfance. Il est le témoin de ce que font les autres. Et ce que lui a permis la critique, c'est de passer ce témoignage encore à d'autres personnes. Donc c'est lui finalement le lien entre Godard et le public.
Oui, il appelle ça le médiateur, enfin, tout simplement. C'est-à-dire que c'est un travail de médiation.
Je crois il dit même le passeur.
Oui, le passeur. Je crois que cette position de retrait, c'est aussi une position intellectuelle et idéologique de dire, voilà, il faut avoir un petit peu de distance pour comprendre les choses et écrire sur les choses, c'est avoir un petit peu de distance ou prendre un peu de distance sur les choses. Et donc, écrire sur un film, sur Le Monde, sur Mai 68, c'est vraiment faire de la critique, faire le passeur.
We'll be right back.
Et donc, moi, pendant à peu près 5-6 ans, j'ai recyclé comme un fou. Enfin, pas seulement du recyclage, il y a aussi des choses que j'ai trouvées comme ça. Bon, je me suis libéré. Et j'ai écrit beaucoup. Parce que c'était quand même un papier de 5-6 feuillets. À l'époque, il n'y avait pas de pub au début. On faisait toute la page. J'ai même eu, moi, ce plaisir extraordinaire de d'écrire un article, presque d'y passer la nuit, de l'amener le lendemain au journal, de le suivre jusqu'au marbre et de partir à l'époque à 1h du matin et je le voyais composer. Même j'aidais le monteur à mettre un titre, une légende, etc. Quand on a connu ça, on n'a pas trop le droit de se plaindre, les journalistes, etc. Personnellement, je veux dire. Parce que c'est peut-être le rêve que tout journaliste a, qui est un, de faire un truc dans lequel il croit, deux, ça le gratifie parce que les gens lisent et aiment bien. Trois, il est le maître absolu de sa page. Moi, ma page, c'était comme un film. Je faisais la légende, je faisais le titre, je faisais tout. Parce que je n'avais pas appris autrement aussi. Vous voyez, je faisais tout aussi. On faisait la cuisine, on faisait la tambouille.
Hors champ, consacré à Serge Danet. Danet qui, en 81, quitte la rédaction en chef des Cahiers du cinéma et va commencer à écrire sur le cinéma dans Libération. C'est une, comme il le dit, une libération. Alors qu'est-ce qui change dans le changement, dans le passage du mensuel au quotidien, Martin?
Je crois avant tout ce qui change, c'est que, comme il le dit, il peut écrire beaucoup plus. Il y avait une frustration énorme des Cahiers du cinéma de devoir écrire un ou deux papiers par mois maximum. Et là, tout à coup, c'est deux par semaine. Donc c'est un bonheur absolu pour lui et on le voit d'ailleurs dans ses textes et la profusion des textes et même la différence d'écriture entre les cahiers et Libé. Il y a un bonheur d'écrire qui était là dans les cahiers mais qui se regardait un petit peu. Et là on sent vraiment une ferveur dans l'écriture.
Joséphine.
Et puis oui, il y a un double changement, c'est-à-dire celui du temps. Il passe d'un mensuel à un quotidien, donc le temps d'écriture est évidemment plus réduit. Donc quand on écrit en quotidien, il y a une espèce d'adrénaline. N'importe quel journaliste qui travaille en quotidien vous l'expliquera, puisqu'on a une heure pour rendre un papier. Et il l'explique très bien quand il parle de cette façon qu'il a de suivre sa copie, de son élaboration jusqu'à sa sortie papier. C'est assez beau, c'est assez émouvant, donc un temps beaucoup plus rapide. Et puis aussi de fonction, c'est-à-dire comme le disait Martin, il passe du statut de rédacteur en chef, je suppose, chef de rubrique ou journaliste, c'est-à-dire qu'il peut beaucoup plus écrire. Il n'est pas responsable des pages des autres parce que c'est souvent fastidieux, rédacteur en chef, on doit relire les papiers, on n'en écrit plus beaucoup. Et là, ce qu'il dit sur sa page, qui est comme un film, qu'il organise comme il veut, on sent vraiment une réelle liberté. Et effectivement, quand il parle de libération, on comprend tout à fait puisqu'il a la main mise sur quelque chose qui paraît tous les jours. C'est assez... assez intéressant.
C'était une époque aussi où Libération se penchait vers la culture, où il n'y avait pas tellement de domaines culturels, et c'est le moment où Serge Julie a cherché dans chaque domaine à avoir une belle plume pour dominer. Donc là, il lui donnait une liberté quand même assez grande.
Oui, parce qu'à la base, il faut quand même dire que Libération est créé en 68, c'est un journal très marginal. Vers 80, il commence à être grand public, et c'est justement pour cette volonté d'ouverture que Serge Julie fait venir Serge Danet, ce qui n'était pas le cas avant, où Libération restait quand même encore assez confidentielle jusqu'au début des années 80. Donc en plus, Danet arrive à un moment où le journal change d'aspect et se veut délibérément plus grand public, entre guillemets.
Un journal qui était le sien en plus, puisque c'est celui qu'il lisait. Donc
Voilà. Grégoire.
Oui, ce qui est assez beau dans l'extrait qu'on a écouté où il parle de la composition et quand on voit aussi quelques facsimilés de pages justement qu'il a composées, il y a dans le DVD, on voit un moment la page sur North by Northwest, La mort aux trousses de Hitchcock, où il y a un texte assez court au milieu, et il a rempli la page de photogrammes du baiser de Cary Grant et
Eva
Marie Saint. Et voilà, il parle de ce baiser, mais il y a quasiment plus de photos que de textes. Mais c'est justement de voir la façon dont il compose ça, de voir que s'il voulait avoir la une sur un film, il pouvait l'avoir.
Même d'Olivera.
Voilà, qui est assez beau et qui sans doute était... très, très intéressant pour de son point de vue.
Alors cette période justement, c'est aussi le retour de l'accueil des images qui sont plus aussi porteuses de soupçons, puisqu'on disait au début de l'émission que le cinéma c'est d'abord pour lui la carte de géographie, c'est pas l'album d'images. Là on a un retour des images sous toutes leurs formes, une espèce de liberté aussi de se dire bon, les films sont sur petit écran, sur grand écran, bien sûr ça change quelque chose. Évidemment que même aujourd'hui, regarder un DVD ou voir un film qui passe à la télé, c'est pas la même chose, puisque au cinéma, les films sont montrés. Hein, c'est-à-dire au cinéma, il y a quand même quelqu'un qui a programmé une salle, qui a choisi, qui nous présente le petit film dans les journaux, dans les programmes. À la télé, c'est un robinet, ça passe et finalement, le même film n'est pas montré. Mais on a chez Serge Danet une modification quand même de cette vision un peu qui est devenue un petit peu quand même cliché du rapport entre le grand et le petit écran, et un accueil de ces nouveaux régimes de l'image et aussi de ce qu'on regarde à la télévision, pas forcément donc des films.
Oui, c'est vrai que à partir du moment où il est chez Libération, c'est un peu dû à la temporalité aussi, parce qu'effectivement il se rend compte que le cinéma, le rapport de cette dialectique du montrer et du voir, et donc de la mise en scène, est en train de perdre le champ face à la publicité et à la télévision. Et du coup, il s'intéresse beaucoup d'abord au sport, et il écrira beaucoup sur le tennis qu'il aimait particulièrement, et aussi ensuite, à la fin des années 80, à la télévision en tant que telle. Et donc là, Joséphine va lire un extrait d'un texte où il parle des Jeux Olympiques de 1984.
L'ennuyeux avec la télévision, c'est que nous continuons à en parler avec les mots du cinéma. Nous sommes ridicules et nous ne le savons pas. Nous parlons de plans, nous parlons de montage, de mouvement de caméra, de retour en arrière. Nous faisons comme si le temps de la télé était linéaire et comme si l'espace était homogène. Nous, et nos pauvres mots, avons complètement tort. Il faudra changer de vocabulaire un de ces jours. Et puisque l'avantage du sport télévisé, c'est de rendre cette question un peu plus concrète, profitons-en. Prenons le retour en arrière par exemple. C'est un mot anglais qui fut longtemps utilisé, flashback. C'est un autre mot anglais qui prend la suite, instant replay. Le cinéma avait sa façon de dire « attention passé », la télévision esclave du présent se contente de faire revenir du passé des images qui ont été au présent et qui, les pauvres, ne le sont plus. D'où cette nostalgie instantanée qui suinte, tel un regret des instant replays. Et comme pour vivre ce regret à plein, on a recours au ralenti, au slow-mo. Le slow-mo est l'une des deux façons, l'autre c'est la pub, de parasiter le spectacle du déroulement des jeux. En voilà des complications, dira-t-on outré. Car l'utilité de l'instant replay n'est pas niable. Il permet de suspendre utilement le vol du temps, de vérifier, d'admirer, de revivre ou de départager. Toute chose liée au spectacle sportif. Admettons. Mais que se passe-t-il alors lorsqu'il ne s'agit plus de sport? Prenons un domaine voisin. La danse, par exemple. Un ami m'avoue avoir vu récemment, en plein milieu d'un ballet et au moment d'un entrechat vraiment enthousiasmant, un instant replay. Pourquoi pas des instant replays au théâtre ou en musique? Le poum 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 de la cinquième de Beethoven immédiatement rejoué. Blague dans le coin, tous les arts du temps sont désormais entrés dans l'ère du prélèvement hypertrophié. La fin n'est plus fatale, c'est le retour qui l'est. À la télé, notre seul passé est le résumé officiel d'un ex-présent idéalisé.
Grégoire.
Oui, donc là on voit à la fois un style... qui est donc c'est un article qui est paru dans Libé, quelque chose qui est assez, il y a des blagues dans le texte, mais en même temps il y a pas de concession sur ce qu'il dit. C'est ça qui est assez impressionnant quand on lit les textes de Danet dans Libé, c'est-à-dire que pour un quotidien qui devient grand public à ce moment-là, il y a quand même une profondeur théorique, que ce soit donc là sur la télé ou sur le cinéma, qui est grande. Et malgré tout, on sent au fil des textes, et il le dit bien dans le DVD, qu'au début, à son entrée à Libé, il était là pour défendre des cinéastes très marginaux, par exemple les Straub ou Oliveira.
Ou Philippe Garrel.
Et en 85-86, il était là pour défendre...
Roland-Garros.
Bergman.
Bergman ou Fellini.
Cinéma dominant. Ouais.
Qui étaient quand même des auteurs unanimement reconnus et qu'il fallait à nouveau défendre à ce moment-là, parce que le cinéma perdait complètement pied par rapport à la télé.
Alors, ce qui est la nouveauté aussi, donc là, c'est qu'on peut réfléchir, on peut même théoriser sur des objets qui apparemment sont des produits consommables et qui sont des choses qui passent, qui sont dans l'air du temps, qui relèvent de la culture pop. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup repris aujourd'hui, c'est même le haut principe de certaines publications, par exemple les Inrecuptibles, qui est de dire on peut écrire des textes de fond sur les jeux vidéo, on peut, etc. Alors, Danet n'est peut-être pas allé si loin, parce que on se souvient tous dans l'entretien qu'on a réécouté, revu sur DVD il n'y a pas très longtemps, qu'on lui pose la question des nouvelles images.
Et alors, ce qui est marrant, c'est que cet entretien date de 92 et qu'aujourd'hui encore, les nouvelles images, même si pour nous, c'est devenu un petit peu plus concret, il y a des images de synthèse, il y a des films qui sortent en salle avec ces images, ça reste quand même une nébuleuse assez vaseuse, finalement, et une espèce d'effet d'annonce de ces cinémas-là, de ces nouvelles images. C'est-à-dire que pour lui, il continuait à douter de l'intérêt de mettre en avant comme ça la technique.
Oui, enfin, je crois que ça reste nébuleux pour nous parce que peut-être que personne depuis 92 n'a réussi à mettre les mots qu'il fallait dessus. C'est d'ailleurs ce que craignait Danet dans l'entretien. Il dit bon bah voilà, pour l'instant ça reste un peu abstrait. Un jour, ça sera vraiment concret ces nouvelles images. Et il faudra que quelqu'un les explique et peut-être que personne l'a encore fait. Je ne sais pas.
Bah voilà, Grégoire, t'as du pain sur la planche. On va créer une nouvelle émission sur Radio Campus Paris. Non, mais je pense que ça pose aussi la question de c'est-à-dire de l'avancée technologique, c'est-à-dire qu'on va savoir de plus en plus recréer telle ou telle chose de façon numérique. Mais qu'est-ce qu'on va en faire, quoi? C'est-à-dire que se repose la morale de la forme. C'est bien de pouvoir être au top de la technique, mais encore faut-il avoir, je dirais pas un but, je dirais pas un propos, parce que ce serait réduire à un discours, mais enfin une sorte de visée peut-être. Donc même quand on écrit sur Roland Garros, sur le tennis,
sur les présidents aussi, Giscard qui sort, un rituel de disparition, et Mitterrand qui arrive, rituel d'apparition.
Ça c'est dans
la Libé, dans le Ciné-Journal, c'est publié.
Donc peu importe l'objet. Du moment qu'on a, on a une vraie réflexion et on le prend au sérieux.
Je crois qu'à la télévision aussi, sa réflexion se fonde surtout sur le rapport au spectateur, au téléspectateur. Et notamment, là dans le texte qu'on a lu, mais notamment dans le tennis, il dit au spectateur, oui, faites l'expérience, dans certains textes, faites l'expérience de couper le son et de voir. Et vous allez voir que c'est le son de la balle qui vous guide, parce qu'il y a trop d'informations dans l'image, et c'est le son de la balle qui vous fait regarder la balle et ce qui se passe. Et vous voyez la balle uniquement peut-être parce que d'ailleurs il y a le son, parce qu'elle est tellement petite dans le plan large finalement que c'est pas ça que vous devriez voir en premier.
Mais toujours la coexistence de l'image et du son, comme très tôt dans sa cinéphilie, ça a été très important pour lui. Joséphine.
Non, mais juste parler aussi un petit peu du style Danet, parce que c'est une vraie école stylistique. Il dit à un moment dans le DVD, je pense pas que critique, ce soit une vocation. Moi, je me demande si on peut exactement dire la même chose tout de suite après Danet.
On l'écoute justement là-dessus.
À quoi ça ressemblait le plus, un critique de cinéma? Un poète? Un sociologue, un psychanalyste,
non, à mon avis,
un philosophe. Qu'est-ce que c'était cette je dis pas cette profession.
C'est triste à dire parce que le mot est dur, mais c'est un prêtre raté. C'est un type qui entre. Un critique de cinéma, c'est quelqu'un qui entre une expérience à laquelle il ne veut absolument pas renoncer, et puis une certaine idée que c'est son devoir de, alors que ça passe par lui et que ça atteigne des gens. Voilà, c'est le problème donc de n'importe quel médiateur. Quand je disais prêtre, c'est parce que dans nos cultures à nous, c'est plutôt cette image-là qui pendant très longtemps, mais on pourrait dire c'est un psychanalyste, c'est un parapsychanalyste, c'est un para... Par exemple, Godard un jour m'avait agressé, enfin gentiment en public, en disant que j'étais comme un avocat.
Voilà, un avocat ou alors un passeur, parce que je crois que c'est ça qui est très important quand Danet parle de cinéma, c'est vraiment un relais entre le film et le spectateur. Alors vous allez me dire, c'est pas révolutionnaire, mais ce qui est intéressant dans ses critiques, c'est qu'il ne fait pas édicter simplement une opinion, ce qui serait a priori la base du métier de critique. Lui, dès la lecture de la critique, le lecteur est invité à se faire une opinion et pas juste à aller voir un film et ensuite à se faire une opinion. Donc l'idée de Danet, c'est vraiment d'établir un dialogue avec le lecteur, et c'est une idée qui continue, hein, quand on voit ce que fait Skorecki tous les jours dans Libé, où lui, c'est vraiment un dialogue, lui se dédouble de façon très sarotienne finalement, pour entamer un dialogue avec le spectateur. Chez Danet, c'est pas un dialogue aussi évident, ça va passer par des interpellations, le lecteur est sans cesse sollicité, et surtout par ces parenthèses dont il use, abuse et use à n'en plus pouvoir. Elles ont une double fonction, ces parenthèses, elles vont tout d'abord servir à donner des informations complémentaires. Donc c'est un rôle pédagogique, vraiment. On le voyait bien dans le texte sur Ray. C'est vraiment des indications géographiques, des indications temporelles, démographiques. Enfin bref, vraiment un rôle pédagogique. Et puis d'un autre côté, ces parenthèses et la forme impliquent le fond. Elles créent un espace d'intimité et de connivence avec le lecteur. C'est le moment où il va lui faire des clins d'œil, l'interpeller. Le réveiller peut-être si la lecture est un peu longue. C'est le moment où là le lecteur va se sentir appelé. C'est presque pavlovien. Je vois une parenthèse, je sais que Danet va me parler à moi précisément, lecteur et futur spectateur. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que Danet parle un peu de sa cuisine de critique. Il y a un texte qu'il a fait sur le film Garçon de Claude Sautet et Grégoire va le lire.
À peine les lettres du générique de fin commençaient-elles à couler sur la dernière image du film, que je me mis, quelle mouche me piquait, à vouloir répondre à la question suivante. Pourquoi garçon est-il si faible? Pas nul, ni mal fait, ni choquant, non, faible. Et même un peu rance, très mièvre et pas mal mou. Au même moment, une vieille dame soufflait à son mari jusqu'ici restait quoi? Pas terrible, heureusement qu'il y avait Yves Montand. Cette capacité à ne jamais confondre les stars avec les navets où elles s'égarent, de les sauver en faisant mine de croire que ce sont elles qui sauvent les films, n'était-ce pas, me dis-je, le privilège de ceux qu'on continue à appeler le grand public? La dame ne confondait pas Montand la star et Garçon le film, et elle ignorait sans doute qui était Sautet, réalisateur, et Dabadie, scénariste. Elle n'avait pas forcément tort, d'ailleurs. Il lui suffisait d'accompagner un corps familier, celui d'Yves Montand, dans une métamorphose de plus, de ne pas le laisser s'user seul, de lui dire quelque chose comme « Nous vieillirons ensemble ». De cette ingénuité, je me sentis totalement incapable. J'en savais trop. Il me fallait comprendre pourquoi la barque filmique dans laquelle Montand, Sautet, Dabadie avait pris place avait très vite coulé sous mes yeux.
Voilà, c'est ça qui est génial, c'est-à-dire qu'on n'a pas juste une critique, on a le processus d'élaboration de la critique, c'est-à-dire qu'est-ce qui va faire naître vraiment le processus de pensée, d'écriture, et c'est assez fascinant parce que Danet nous cache pas les cuisines, quoi, comme le font la plupart du temps les critiques, on a vraiment tout le processus, et je crois que c'est ça la force de Danet, c'est de pas prendre son lecteur pour un béotien, mais de le considérer comme un égal avec qui il peut vraiment dialoguer.
Voilà, nous sommes tous des Serge Danet. Amis auditeurs, écris-nous ciné@radiocampusparis.org et on va faire un grand collectif de critiques de cinéma. C'était Hors-Champ. Je remercie Mathieu, je remercie Joséphine, Martin, Grégoire,
puis Charlotte aussi.
Et je rappelle que nous pouvons voir des films sur lesquels a beaucoup écrit Serge Danet du 16 au 22 mars au cinéma Le Reflet Médicis. Et notamment, on va pouvoir revoir le film de Maurice Pialat, Van Gogh.
Que c'est le dernier film qu'il a vu.
Vous en êtes? On est dans les temps ou pas?
Tu rigoles, on est vachement à la bourre.
Quoi?
Mais ouais.
Mais on va pouvoir terminer la journée quand même.
Bon, alors ça, j'en sais rien du tout.
Et la cascade nous où elle est?
Elle s'est retirée à l'habillage.
Quoi? Bah ouais. Va la chercher.
In most sex films, however, the viewpoint is strictly male. They're written by the male, directed by the male, and seen by the male.
La photographie, c'est la vérité. Et le cinéma fait 24 fois la vérité par seconde.
Radio Campus Paris présente